VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les nouvelles mesures sur l'immigration aux États-Unis, un véritable casse-tête pour les chancelleries africaines à Washington. Dans deux directives, le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly a ordonné aux agents des douanes et de l'immigration américaine d'expulser aussi rapidement que possible tous les clandestins qu'ils trouveraient dans l'exercice de leurs fonctions aux États-Unis. Une note qui inquiète les milieux d'immigrés africains. Écoutez la réaction de Tina Koulibaly. Il est l'ambassadeur du Mali à Washington.
L'administration américaine aujourd'hui est dans une phase de transition, c'est-à-dire que ceux avec qui nous parlons, aussi bien au département d'État qu'au ministère du Homeland Security, que j'appelle ministère de l'Intérieur, ce sont ces gens-là qui gèrent les déportations. Les cas américains que nous rencontrons à ce niveau-là sont eux-mêmes un peu dans l'incertitude. Et donc, eux et nous discutons de notre volonté à nous qu'ils tolèrent nos concitoyens et leur totale incapacité vis-à-vis des nouvelles mesures venant des nouvelles autorités qu'eux-mêmes découvrent en même temps que nous tous. Alors donc, nous sommes vraiment dans une phase d'expectative pour tout le monde et j'espère seulement que l'Amérique est aussi le pays de la loi, c'est le pays du règne de la loi, c'est le pays du règne de la tolérance. Donc nous croisons les doigts, nous attendons, mais évidemment nous sommes très inquiet pour nos populations.
L'ambassadeur du Mali à Washington. En Somalie, le nouveau président Mohamed Abdoulaye Mohamed devait prêter serment aujourd'hui à l'aéroport de Mogadiscio, l'endroit le plus sécurisé de la capitale, où s'était déroulée son élection le 8 février pour éviter une attaque des islamistes Shebab qui ont promis de lui mener une guerre sans merci. Conséquence, Mogadiscio, la capitale de la Somalie, était à nouveau paralysée ce mercredi par de fortes mesures de sécurité pour l'investiture du nouveau président. Le Nigeria cherche à rassurer la population sur l'état de santé du président Muhammadu Buhari, dont le séjour en Grande-Bretagne pour raisons médicales a été prolongé. Les autorités nigériennes affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Jacques Aristide.
Cela fait plus d'un mois que le président Buhari se trouve à Londres. Au Nigeria, son absence, qui devait à l'origine durer une dizaine de jours, provoque des doutes sur sa santé et alimente les craintes d'une crise politique. Mais pour son porte-parole, il ne s'agit que d'un repos médical. Femi Adesina a indiqué hier à Abuja que le chef de l'État avait besoin d'une plus longue période pour récupérer, telle que recommandée à la lumière des examens médicaux, et d'assurer que cette prolongation ne doit inspirer au peuple nigérian aucune raison d'inquiétude, sans toutefois préciser quand le président sera de retour. En attendant, l'ancien général de 74 ans a transmis les rênes du pouvoir au vice-président Yemi Osinbajo dans un pays où prévaut en ce moment un climat national tendu, marqué par une grave récession économique.
Libre circulation des personnes en zone CEMAC en Afrique centrale. Les commerçants et transporteurs camerounais qui vendent des produits vivriers au Gabon espèrent la fin des tracasseries qu'ils subissent sur le tronçon Yaoundé-Libreville, surtout après l'engagement pris par les présidents gabonais et équato-guinéens d'ouvrir leurs frontières aux ressortissants des autres pays de la CEMAC. À Yaoundé, retrouvons notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
C'est l'heure du départ pour le Gabon. Nous sommes au lieu dit marché 8e à Yaoundé. Une camionnette bondée de sacs d'oignons se détache de la file d'engins lourds stationnés ici depuis des heures. Des grandos, le chauffeur de bord qui nous répond est un Camerounais. Une fois par semaine, depuis 6 ans, ils viennent transporter des vivres frais au Cameroun pour les revendre sur les marchés du Gabon. Pour ce énième voyage du genre, de Grando sait déjà ce qu'il attend sur le tronçon Yaoundé-Libreville.
J'ai la carte de séjour du Gabon et à la frontière, on m'exige toujours le visa. Je suis Camerounais, j'ai une voiture gabonaise. Dès que je suis au Cameroun, on me traite de Gabonais. Les Camerounais ne gèrent pas la route comme moi. Si le Camerounais donne 500, je vais donner 1000 francs au côté du Cameroun. Parce qu'on dit que c'est la voiture gabonaise.
Ces griefs qui entravent la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, M. Etoundi a fini par s'y accoutumer. Au lieu dit marché du Fundi à Yaoundé, Etoundi achète chaque lundi des vivres frais qu'il empile dans un camion. Le lendemain, aux premières heures, sa livraison prend la direction du Gabon. Après 15 ans d'activité, l'homme d'affaires dit faire face aux mêmes difficultés sur le tronçon Yaoundé-Libreville.
Pour un camion qui a l'immatriculation gabonaise, quitte d'abord le Gabon pour le Cameroun. Quand ils traversent déjà, ils doivent acheter ce qu'on appelle le passe-avant. On te signe un papier au niveau de la douane. Ce papier, nous l'achetons à 25 000. Ça n'exclut pas qu'on vous en a. Vous savez bel et bien que la route coûte cher. Les camions qui chargent le Gabon, vous allez voir un gros chargement qui dépasse même le poids du véhicule. Nous, les commerçants, on ne peut pas s'en sortir. Si jamais il faut se charger, selon le tonnage du véhicule, quitter avec le camion rien que ici, Yaoundé, pour Libreville, c'est 650 000. Donc ça voudrait dire le carburant, la police, la douane. Et de l'autre côté là-bas, à chaque contrôle là-bas, il faut payer au moins 10 000.
L'engagement des présidents Ali Bongo du Gabon et Théodore Obiang de la Guinée équatoriale vendredi dernier a appliqué la libre circulation intégrale des personnes pour tous les ressortissants de la zone CEMAC devrait changer la donne actuelle, à condition de se pencher sur l'urgence. Professeur Raymond Ebalé, enseignant d'histoire économique à l'université de Yaoundé 1.
Il va falloir que les pays de l'Afrique se mettent maintenant au travail pour mettre en place des mécanismes qui rassurent, c'est-à-dire que l'Afrique centrale mette en place un système centralisé de vérification, n'est-ce pas, de l'identité de personne. 19 points de contrôle entre la frontière du Cameroun et la ville de Libreville. Je pense que ça doit pouvoir cesser. Il va falloir maintenant éduquer les policiers, leur faire comprendre que maintenant nous sommes dans une dynamique de circulation libre.
Les commerçants et transporteurs camerounais du tronçon Yaoundé-Libreville disent vouloir d'abord voir les choses changer avant d'y croire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
La Haute Cour d'Afrique du Sud a jugé aujourd'hui, contraire à la Constitution, la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale, la CPI de La Haye. Pretoria a notifié la CPI en octobre de sa décision de cesser d'y siéger, estimant que sa présence était incompatible avec la législation sud-africaine. L'Alliance démocratique d'opposition avait déposé, elle, un recours contre cette décision et c'est sur ce recours que la Haute Cour s'est prononcée ce mercredi. On ignorait dans l'immédiat si le gouvernement sud-africain entendait faire appel de cette décision. Amnesty International dresse un tableau sombre de la situation des droits de l'homme dans le monde en 2016 et la directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud, nous situe sur la situation du continent africain.
Précisément en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons vécu une année où des gouvernements ont montré une réelle volonté de réprimer de manière assez régulière et assez systématique les différentes formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de manifestation, etc., y compris dans des pays qui sont considérés comme des pays plutôt démocratiques ou en tout cas qui ont montré des progrès et des alternances politiques relativement pacifiques. Dans ces pays, dans quasiment chaque pays de la région, nous avons vu des manifestations qui ont été interdites en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, etc., ou qui ont été réprimées avec parfois des morts. Le Burundi, évidemment, avec la situation extrême qui a prévalu suite aux tensions qui entouraient la question du troisième mandat, une répression féroce qui s'est abattue sur l'opposition, sur la société civile et sur les journalistes également, et malheureusement une situation extrêmement tendue avec par ailleurs le Burundi qui s'est retiré de la CPI, donc avec des chances très minces pour les Burundais qui ont été victimes des violations de pouvoir obtenir justice un jour.
Samira Daoud d'Amnesty International.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
6h08 à Washington, le chef d'état-major adjoint de l'armée yéménite a été tué dans la nuit de mardi à mercredi dans des combats entre forces loyalistes et rebelles houthis près de la ville de Moka sur la mer Rouge, a indiqué à l'AFP une source militaire. Le général Ahmad Saif al-Yafi a été tué par un tir de missile aux abords de cette ville que les forces pro-gouvernementales ont récemment reprise dans le cadre d'une offensive en cours, destinée à regagner du terrain sur la côte sud-ouest. Leur objectif est de déloger les rebelles houthis de la grande ville portuaire de Hodeida dans le nord-ouest du Yémen. Et puis, l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych, réfugié en Russie, a appelé le président américain Donald Trump à agir pour arrêter la guerre dans l'est de l'Ukraine, provoquée, selon lui, en partie par les actes irresponsables de l'administration Obama. Rendu public aujourd'hui, sa lettre appelle le dirigeant américain à prendre des mesures urgentes et exhaustives pour mettre fin aux hostilités dans l'est de l'Ukraine où un conflit armé entre le pouvoir pro-occidental et les rebelles pro-russes a fait plus de 10 000 morts depuis le mois de mars 2014. Jean-Roger Bion à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.